Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les gars, je viens de tomber sur Grégoire Margoton, avec qui on a échangé, on a fait un peu les vieux papis. J'en ai profité pour l'inviter sur le podcast. Donc il attend la validation de TF1, mais en tout cas il était emballé autour de la thématique du comment raconter un match de football professionnel. Comment me faire vivre, comment me faire véhiculer l'émotion, hein, d'un match de football. Sitôt que j'en sais plus, je vous confirme, mais il y a de fortes chances que ça puisse se faire. Ok ? Allez, bisous.
Ah, ça serait top ça. Bah, mortel. Tiens-nous au jus, Edouard.
Bon, super les gars. Good news, TF1 validé. Greg est dispo donc le lundi à 14h. Il n'aura qu'une heure. Allez, une grosse heure et demie à nous accorder, parce qu'après, il est relativement busy. Donc, bon, c'est good. 1h30, soyons sharp. La bise.
Salut à tous, je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver avec mon acolyte l'inénarrable Monsieur Cissé aujourd'hui pour l'épisode 29, un épisode 29 où une fois n'est pas coutume, nous avons la joie de recevoir quelqu'un qui a bien plus l'habitude que nous du micro, et c'est peu dire puisqu'on a la joie de recevoir Grégoire Margoton.
Et il en a bouffé du micro.
Salut Greg.
Ça va, messieurs ?
Ça va, c'est un vrai plaisir de t'avoir.
On est bien chez vous. Hein. C'est vrai ? Bon, il fait chaud et tout, bien reçu.
Bon, à l'intérieur aussi, c'est un peu logique.
C'est ça.
On n'est pas à 19 degrés par contre.
Non, je...
On est 20, 21
degrés. Non, on est moins, on respecte l'environnement.
C'est vrai.
Chez Sopress.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de gestion d'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars ?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
Eh ben, écoute,
qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
On va parler football.
Ouais. On va parler foot. On a, comme tu peux l'imaginer, beaucoup de questions à te poser.
J'espère.
Sur un sujet qui est simple dans son expression, mais qui englobe beaucoup de choses. On a envie de parler avec toi de comment on raconte le football. Et je pense qu'il y a peu de gens plus indiqués que toi pour en parler.
Si, bien sûr que si, il y en a plein. Mais vaste sujet. J'essaierai d'être à la hauteur du thème du jour.
Eh ben, écoute,
mon Dieu.
On a préparé quand même quelques questions pour nous aider à naviguer dans ce beau sujet. Et la première, je n'en revendique jamais la paternité parce que c'est Edouard qui a coutume de la poser. C'est un peu sa spécialité.
Toujours.
Donc je vais lui laisser l'honneur de le faire.
Tu mets le premier coup.
C'est exactement ça. C'est la première lame.
Ouais, la première lame, le premier coup, voyons. Attends, Greg.
Sur le dessus du pied, tu sais, celui qui fait un tout petit, qui pique un peu, mais tu te relèves.
Voilà, de suite ça va, tu relèves
l'adversaire.
c'est quoi ton lien avec le foot ? Tu peux nous le décrire ?
C'est mon frère aîné.
Frère aîné ?
C'est mon grand frère. On est deux, il a 5 ans ou 6 ans de plus que moi, et mon frère aîné, moi-même un peu, mais surtout mon frère, passe ses après-midi, dès qu'il rentre de l'école, dans la cour de l'immeuble, dans la banlieue de Lyon, à taper dans le ballon avec des copains. Et il tape très bien dans le ballon. Petit, un peu Floridinalo, tu vois. Petit Lyonnais, grosse frappe. Et il tape dans le ballon, il me met au sport, il me fait aimer le sport.
C'est avec gardien lui. De but.
Pas du tout. Moi, j'ai fait du basket ensuite, jamais fait de foot. Mon frère était au foot, il a failli même rentrer en sport-études à l'Olympique Lyonnais. Mes parents, qui étaient profs, n'ont pas voulu. Ils ont eu très très peur, je pense, de voir un fils footeux. On est donc en 1980, tu vois, 82, donc pas possible. Même un peu avant pour lui. Non, il adorait le foot et c'est avec lui que j'ai les premiers souvenirs de faire le mur, parce que c'était vraiment une question de ça, pour aller dans le salon pour me mater les matchs de la Coupe du Monde en Argentine en 78. Donc moi j'avais 8 ans, lui avait 12 ou 13, et c'est mon grand frère qui me met au foot. Ouais. C'est vraiment une histoire de grand frère. Ouais.
Et tu le pratiques aussi ?
Un peu, bah, dans la cour. Dans la cour. Donc, on fait tout dans la cour. J'ai une vieille donnée en bois sur laquelle j'écris je mets un gros B que je dessine sur mon pauvre cordage en vinyle pour faire Björn Borg, B comme Borg. Donc, voilà, j'allais pas au ski, mais j'aurais eu un pompon comme Ingemar Stenmark. Voilà, il y a des grands champions. Je suis comme tous les gosses, j'adore les grands champions de mon époque. Donc, c'est Cruyff. Mon frère, c'était Cruyff. Donc, d'accord. Je pouvais pas faire comme mon frère. Donc, moi, c'était Keegan. Voilà, c'est simple. Kevin D'où Liverpool, Keegan. Entre la suite, etc. Mais moi, c'est Keegan. Voilà. D'accord. Et on est à Lyon, donc l'AS Saint-Etienne, un peu quand même, on était 76, 77, t'es un peu obligé.
À une époque où l'OL n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, donc le club...
C'était pareil qu'aujourd'hui en fait. C'est revenu au même endroit. Je rigole. Donc voilà, c'est mon frère, et donc c'est pour ça que c'est puissant. Ça vient de loin. Ouais.
Ce lien-là. Mais du coup, parce que tu dis que tu faisais un petit peu la... C'est pas l'école buissonnière, mais en fin de compte, tu grugeais un petit peu le feu vert pour regarder les matchs. Et très tôt, tu regardais les matchs ou t'écoutais déjà les commentateurs ?
Oh. J'ai pas de souvenirs. Je vais te raconter des choses qu'on m'a racontées. Alors, il paraît que c'est des potes qui me racontent ça, que j'ai connu à l'école et puis même ma famille. Effectivement, je commentais tout. J'avais comme toi une grande, grande bouche. Et une très grande bouche.
Tu le connais bien.
Donc je me revois pas commenter, mais je me revois imiter beaucoup les d'accord, gens. Okay, d'accord. Imitateur, à 8 ans, imiter Léon Zitrone, imiter machin, okay. Peut-être imiter des commentateurs de sport. C'est possible.
Et toi, t'as pas de souvenir de ça ?
Non.
C'est souvent les gens qui te rappellent comment tu étais.
Ouais. Donc, il paraît que j'avais une grande bouche. Voilà.
D'accord. Une belle bouche ?
Je sais pas, mais une grande bouche. Et avec le temps, j'ai eu une voix qui était celle de mon père au décibel près. J'ai la même voix que mon père. Okay. Mon père était prof en fac, ça lui permettait de parler à un amphithéâtre de 400 personnes sans avoir élevé la voix. Ben moi, ça m'a servi à faire autre chose. Mais c'est que de la génétique. Merci papa. Voilà.
Bravo. Après, il faut savoir l'utiliser à bon escient.
Je sais pas.
C'est comme chez les footballeurs.
Mais j'avais une grande bouche, d'accord. J'aimais bien le sport et j'ai mué au bon moment. Voilà.
Très tôt, donc,
à 8 ans. On a quand même des bases pour peut-être éventuellement mettre un casque avec un micro devant et aller dans un stade et se faire plaisir.
Alors, et ce cheminement, du coup, si on fait un fast-forward pour utiliser un de mes anglicismes chéris, comment donc on devient commentateur ? Comment on devient d'abord journaliste, j'imagine, puis on se dirige ensuite vers le commentaire ?
C'est totalement empirique et je crois que même aujourd'hui encore, en 2023, c'est totalement empirique. Il n'y a pas d'école de commentateur, il n'y a pas de cours de commentaire, ça n'existe pas. Même s'il y a certaines universités ou certaines sections au journalisme qui font du journalisme sport, avec un peu de commentaires, mais ça n'existe pas. On devient ça, je suis devenu journaliste parce que je voulais être journaliste, d'accord. Et pas forcément de sport. Après, d'accord. À peu près tout m'intéressait dans la vie. Donc ça a failli être journaliste politique, mais j'en étais assez rapidement éloigné en me retrouvant à Matignon ou à l'Élysée pour des conseils des ministres quand j'étais à l'école de journalisme à Paris.
D'accord.
Et je me suis très vite dit « c'est pas pour moi,
c'est
ça,
pas,
non,
c'est
ça va pas être mon monde ouais. ». Et le sport s'est tombé pas par hasard, parce que j'ai toujours aimé les sports. Mais il y a dans mon école de journalisme une demande de la part du service des sports de Canal+, Charles Vietri à l'époque qui était le patron du service des sports de Canal+, voulait deux stagiaires pendant 3 mois. Pendant les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, où pour la première fois, toute la rédaction de Canal, les sports, partait à Barcelone. Et il fallait deux gamins qui restent à Paris au cas où Michel Platini a un accident de voiture, faire un sujet rapide comme ça, qu'il soit prêt à faire des sujets très rapidement. Donc je suis arrivé en juin 92. Et j'ai eu comme premier boulot, pas du commentaire du tout, mais ce qu'on appelait du secours. J'étais la nuit en plateau pendant les finales NBA. Donc mon premier boulot à Canal, j'avais 20 ans, c'est de rester à regarder et écouter George Eddy et Eric Bénard commenter Bulls Blazers de Portland. Donc c'était
on est en 92.
Clyde Drexler contre Michael Jordan. Ah ouais, je passais mes nuits à regarder et puis je prenais mon taxi qui était payé par Canal+. Ça aussi c'était l'aboutissement d'une vie.
Ouais.
Tu quittais ta boîte à 5h du matin, le soleil se levait, on te payait un taxi pour rentrer chez toi et t'avais vu du basket toute la nuit. Au cas où il fallait intervenir, on a des problèmes techniques mais jamais ça a pété. Donc je suis jamais intervenu et j'ai regardé du basket pendant 2 semaines et ensuite on a commencé un peu à bosser et puis c'est devenu un stage de 24 ans à Canal.
Oui, c'est ce que c'est ce que
le commentaire, disais. Je suis désolé d'enchaîner.
Non,
le commentaire, il arrive vers septembre-octobre où Bietri, on était deux stagiaires, dit allez vous mettre en cabine. Faites un essai, voir si ça vous plaît, prenez un match, commentez, et puis j'écouterai ou d'autres écouteront, puis on verra. Et visiblement, moi j'ai eu, je me souviens pas du tout, hein, on me l'a re-raconté ensuite, hein, j'ai eu pas mal de plaisir à faire ça, et je pense 15 jours après, on me lâchait à San Siro, tout seul.
15 jours après
Ouais. Bah, c'est le canal à l'époque, hein, pour commenter un Inter-Samp complètement qui allait être réduit en 15 minutes pour l'équipe du dimanche, la grande émission de l'époque où on faisait un grand format italien, un grand format anglais, un grand format espagnol chaque semaine. Et moi, le grand format, c'était l'italien. Et toute ma vie, je me souviens de ce match-là. C'est le seul dont je me souviens, mais toute ma vie, je me souviens de ce match-là. C'était horrible.
Et t'as paniqué.
Tu le vois, le 0-0 ?
Ouais, et c'est quoi,
San Siro,
Catenaccio,
8 novembre 92, brouillard, 3-4 degrés, 0-0, un pénalty, Ruben Sosa sur le poteau, c'est tout dans le match, c'est tout.
Rien d'autre à dire.
Waouh. Et là, ils en ont fait peut-être que 10 minutes, personne ne l'a recommenté ensuite, ils ont pris mon commentaire, et puis la semaine d'après j'étais à Old Trafford, la semaine d'après à Blackburn, puis les semaines d'après, là c'était parti toutes les semaines.
Ah, mais il y a un truc qui en dit long sur l'époque aussi, c'est qu'aujourd'hui, et ça je pense que tu peux nous le confirmer, un jeune commentateur, il fait peut-être une ou deux saisons de cabine avant d'avoir la chance de partir dans le stade, mais, d'avoir l'expérience.
Absolument, mais ça c'était considéré un peu comme la cabine, c'est-à-dire que si vraiment ça avait été catastrophique, on pouvait le recommenter à Paris, remettre une voie dessus, etc.
Donc
c'était quand même une école hallucinante, parce que tu dois te débrouiller tout seul, tu vas en Italie, moi je ne parlais pas italien, tu te débrouilles pour aller chercher de Internet.
Alors c'était,
Internet, ça n'existait pas là,
tu dois te débrouiller tout seul, ça veut dire quoi?
À tout. Bah, de chez toi jusqu'au stade, tu vas chercher ton accred, tu vas aller la demander, enfin tu dois te débrouiller.
C'est plus le cas maintenant.
Et dove la tribuna per la stampa, tout ça, je ne savais pas à dire ça.
Ah ouais, non mais quand même.
Et donc
t'as quel
âge? Mais oui, mais après t'apprends.
Ouais, t'apprends.
J'ai 21 ans, ouais, mais j'avais jamais pris l'avion avant d'arriver à Canal de ma vie. J'avais jamais voyagé un peu, mais pris l'avion jamais à 21 ans.
C'est vrai.
Et je voulais voyager. En fait, je ne voulais pas être journaliste, je vous ai menti au début, je voulais voyager.
D'accord. Donc,
et je pense que être journaliste de sport, c'était pour voyager. J'ai senti assez rapidement que c'était pas mal.
Ça t'a permis de...
Et Canal, quand je te dis que je suis tombé à l'endroit qui n'existera plus jamais, en 2 ans, on te file à faire des petits sujets. Tous les semaines, tous les samedis, j'étais sur la Ligue 1. Je faisais des résumés de jour de foot.
Ouais.
Donc tu vas sur un match de foot, tu fais un résumé, un autre exercice que le commentaire. Mais un résumé de 2, 3, 4 minutes d'un match. Le lendemain, tu es à l'étranger pour aller faire tout un match en commenté. Tu reviens, tu fais des sujets. Au mois de juin, on te dit, tu ferais pas la Copa América pendant 15 jours, ah si, je veux bien aller la faire. Et puis après, tu ferais pas la Coupe d'Afrique là? Ah si, je veux bien. Enfin, c'était ça en permanence.
Mais on a l'impression que c'était facile. Et il y avait autant de commentateurs ou pas du tout?
Comme
tu racontes l'histoire, on a l'impression que tu étais tout seul.
Qui ont été formés dans cette décennie-là avec moi. Moi, je suis un des premiers, après évidemment Thierry Gilardi, qui était déjà là. Pierre Slett, qui n'a pas beaucoup commenté, mais Thierry était le taulier. Après, très vite, il y a eu Denis Balbir, et puis je te l'ai fait, Christophe Joss, Cyril Linette, David Berger, tous ceux-là qui se sont retrouvés ensuite à BIN dans toutes les rédactions de France, ils ont été formés à Canal.
Ouais.
Tous à la même école.
Oui, parce que c'était aussi la chaîne qui avait les droits à l'époque, était quasiment
tout,
la chaîne.
Ça n'existera plus.
Ouais, c'est ça.
Tu fais la liste des droits sportifs de Canal+ en 80, 12, 13, 14, jusqu'à 18, 19, c'est hallucinant. Voilà,
ouais.
Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie, Coupe de machin, toute la Ligue des Champions, Ligue Europa, tous les championnats, tout, Ligue 1.
C'est jusqu'à BIN, c'est là que ça commence à se morceler le marché français. Avant, les droits sont concentrés sur Canal.
Il y a un petit peu de TPS avant.
Oui,
il y a eu plusieurs petites batailles.
Tu as eu la chaîne de la Ligue aussi à un moment.
Mais rien qui pouvait concurrencer Canal. Et à Canal, il y avait effectivement du boulot pour beaucoup, beaucoup de journalistes. Et il ne fallait pas gérer vraiment les égos parce qu'on avait tellement de quoi manger et tellement à bien manger que c'était magnifique.
Ouais, et puis j'imagine que tu te nourris aussi de l'avancée des autres. Enfin, il y a une émulsion qui est saine. C'est-à-dire qu'une rédaction, c'est composé de beaucoup de profils. Il y a forcément des rivalités comme des rivalités dans les équipes de foot. Mais c'est aussi, quand tu es dans ce type de rédaction, l'avantage d'avoir l'équivalent de Neymar, Mbappé et Messi ensemble et qui t'as une émulsion saine. Et le fait d'être au contact de ces gens-là te permet aussi de progresser.
Puis pas simplement le foot. Ce qui est intéressant aussi à Canal, et c'est ce que j'aime bien, ce qui est un peu compliqué depuis, surtout par exemple sur Amazon ou sur Téléfoot, la chaîne qui, a eu, ouais. qui est morte-née il y a deux ans, ouais. c'est que c'était que du foot. Là, Canal, si tu avais envie de faire autre chose, tu pouvais demander, tiens, je ferais bien les interviews du meeting d'athlée là, à partir de juin. Bah, on te disait, bah ouais, pourquoi pas, tiens, ok. Tu fais les... Et donc, tu avais des passerelles de partout. Ouais. Moi, je commentais du foot 92, mais en 96, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, je commente le basket avec George Eddy.
Ouais.
Et j'ai dû commenter avant avec lui une dizaine de matchs NBA, plus la prépa de la Dream Team 2 pendant un mois. On a tourné, à accompagner les Américains avant les Jeux. Mais c'est tout. Voilà. Et on fait confiance aux gamins parce que Eric Bénard, qui est l'habituel commentateur, il fait la gym voilà. et il peut pas faire le basket. Donc bah, tu veux faire le basket ? Bah ouais, tu fais le basket.
Mais du coup, c'était pas mal. C'était pas mal parce qu'on a l'impression que vous lassiez jamais. Et parfois, dans certains, y a tellement de matchs à la télé qu'on sent parfois, que ce soit le consultant ou le commentateur, y a une forme de frustration, de routine, d'habitude. Et
Dire aujourd'hui ?
Ouais, y a trop de matchs. Ouais. Et de ton époque, j'ai envie de dire, y a une vingtaine d'années, trentaine, 40 ans, 50 ans. Non, le fait de pouvoir faire, je sais pas moi, 3 mois de ski, 3 mois de foot, une compétition de golf, une compétition de Formule 1, quoi que ce soit, ça t'anime en fin de compte, ça te réanime, ça te permet de te rebooster. Quoi.
Ça t'ouvre les chakras et ça reconnecte des synapses qui commençaient à se fermer. Bah, c'est une base, moi, à la fin de toute saison de foot, t'en peux plus.
Ouais. Bah, le rythme est... Ouais.
Moi, j'en pouvais plus. De faire 3 matchs de foot par semaine, ou résumer, ou commenter partout, à la fin de la saison, j'en pouvais plus. Et quand t'arrivais, dans les années 2000 surtout, l'athlée, avec les grands meetings de la Golden League, avec les JO, etc., c'était quel bonheur. Puis tu progresses, on parle de commentaires. Si un gamin vient me voir en me disant « Monsieur, je vais être commentateur de foot », ça me fait peur.
Ouais. Ils veulent tous faire
t'as
ça.
T'as pas envie d'être commentateur de sport ou ouais. Ah non, j'aime que le foot. Tu me fais peur, petit. Bah moi, voilà. C'est très... La base pour moi, ça a été d'aller me nourrir aussi des basketteurs, des footeux, de rencontrer d'autres personnes. Les footeux à ta vieille époque, Edouard.
Quand on 30, allait, 40, 50
quand on allait dans
aussi.
Les clubs, commenter un match du samedi soir ou du dimanche soir, on allait la veille dans le club, on était reçus par les joueurs, on allait au dernier entraînement, on passait une heure et demie avec le coach. Tu fais quoi demain ? Vous avez fait quoi cette semaine ? Comment va machin ? Comment va bidule ? Ok. Aujourd'hui, c'est impensable.
Tu le fais plus
même
du tout, ça.
Ah, peut-être à Lens, peut-être à Brest, peut-être dans des coins, des clubs, où tu as des bons rapports avec l'entraîneur, le directeur sportif et une confiance mutuelle. Mais autrement, c'est plus jouable. Alors que c'est jouable. Moi, j'étais au hand avec l'équipe de France pendant une semaine. Tu te pointes à l'hôtel, ça va Nicolas Karabatic, tout est ouvert.
Parce que ça, dans la préparation, c'est fondamental. Tu dois quand même raconter une histoire et il faut avoir les tenants et les aboutissants. Donc si effectivement, le côté... je sais qu'il y avait des journalistes et des commentateurs chez qui c'est très systématique. Je me rappelle d'avoir une discussion avec Stéphanie Guy qui me disait, moi systématiquement, j'appelle les deux coachs, deux joueurs de chaque club. Enfin, il avait presque une méthode de préparation de match. Si aujourd'hui, tu ne peux plus le faire, ça, ce travail-là, comment tu prépares ton match ? Où est-ce que tu vas chercher
l'information ? Tu le prépares différemment. Ouais. Alors, encore une fois, moi, je suis passé dans un autre univers avec l'équipe de France. Ouais. Ce n'est pas le même métier, j'ai envie de te dire.
Ouais.
C'est-à-dire que tu n'as pas de contact. Ou si tu as des contacts, j'ai appris avec le temps, moi, je ne suis pas à aller chercher un contact d'un agent, du copain, d'un agent du bidule qui va me sortir ce qu'il a envie de me sortir pour son joueur, contre l'autre joueur. Non.
Pour son projet commercial à lui.
Voilà. Et là, on est dans des projets commerciaux de haut niveau avec l'équipe de France. Donc, je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Donc, j'ai effectivement très peu de rapports avec les joueurs. D'accord. De temps en temps, arrive à un moment où je fais un autre travail. J'ai fait un doc là récemment où je me retrouve avec... Tchouaméni ou d'autres pendant une heure en interview. On discute une demi-heure avant, on fait l'interview une demi-heure après. Je ne peux pas dire que je connais Aurélien Tchouaméni.
Mais tu as l'occasion.
Mais voilà, j'ai ressenti le garçon un peu. On a parlé d'autres choses que ce que... pareil avec Klaus que j'ai vu. Je suis allé manger avant avec lui en interview. Il y a encore ces moments-là, en dehors des matchs de l'équipe de France, mais pendant le match de l'équipe de France, il n'y a rien. Mm. Et ceux qui pensent que Margoton, il commente les Bleus, c'est le pote de Deschamps. J'ai aucun rapport avec Didier Deschamps. Ouais. Et ça a toujours été le cas. Ouais. Je ne veux pas avoir de rapport ni avec les présidents, ni avec les agents. Mon métier, c'est commenter. Je serais, mon métier, si c'était comme sur RMC ou même dans d'autres médias, d'avoir des infos sur les transferts, bon sur le mercato, etc., bah, je ferais un autre métier, je ferais différemment. Mais ça, c'est pas mon métier et j'ai jamais voulu que ce soit mon métier. Okay. Mon métier, c'est tu me poses dans un endroit, j'ai assez de connaissances pour pas être pris de court sur ce qui se passe. Et ces connaissances, je les ferme sur ma fiche, l'ouvre pas, et derrière, je raconte une histoire en essayant de mettre en valeur celui qui est à côté de moi, ouais. qui s'appelle un consultant. Voilà, c'est à peu près ça, mon métier.
Il y a mille questions qui fusent, mais tu dis quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup, en général, quand on travaille dans le foot, c'est quand même le côté grisant d'être proche du terrain. Et cet appel de connaître les joueurs, cet appel de dire j'étais sur le terrain, c'est ça qui peut être dangereux potentiellement pour le commentateur. C'est vouloir sortir de son rôle et forcément ça crée un biais derrière parce que si tu t'entends bien avec un mec, et c'est le reproche qui est fait souvent sur les notes dans l'un ou l'autre journal, on dit ouais mais il est pote avec le joueur donc il aura jamais moins de 7, etc. Ça peut venir de là, ces biais là. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut surtout pas les créer et rester dans ton.
Écoute, je juge personne. Non, moi, dès le départ, ça s'est mis en place comme ça. Je n'ai jamais... Olas, je pourrais le connaître très très bien avec le temps. Là. Je l'ai connu, il était en 89, 10, 11, 12, il était jeune président, ils n'avaient encore rien gagné. J'allais tout le temps à Lyon parce que j'étais le Lyonnais de service et qu'on m'envoyait beaucoup, beaucoup à Lyon avant qu'il soit champion. Je pourrais être très proche de Lyon et en fait, j'ai aucun rapport particulier avec Jean-Michel Olas ou avec d'autres. Alors, je vais te le dire par choix, mais d'abord par timidité.
D'accord.
Voilà. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, je me disais, mais enfin, je me sentais pas du tout légitime de rien. Et donc, je restais dans mon coin. Et avec le temps, je me suis dit, c'est une très bonne position de rester en son coin parce que ça me permet de penser ce que j'ai envie de penser, de dire éventuellement ce que j'ai envie de dire. Et de pas être taxé de parti
ouais,
pris.
De partisan,
Parce
que pour expliquer un petit peu, très souvent, quand tu arrives au stade, t'as le commentateur et le consultant, t'arrives quasiment même avant ou en même temps que les joueurs. Donc t'as le commentateur et le consultant qui sont sur le terrain et t'as les joueurs qui rentrent et donc c'est très facile d'aller parler. D'ailleurs, tu vois par certaines personnes qui vont parler aux joueurs.
Et je te coupe deux secondes, mais c'est aussi mis en scène par certaines. Les plateaux bord-terrain qui n'existaient pas au début des années 80-90, c'est devenu quelque chose de mise en scène. Tu vois, Bean a fait ça très bien pendant longtemps. Le plateau, qui vient de checker son ancien.
Le plateau, encore, c'est assez intéressant. Mais parfois, c'est vrai que quand j'ai vécu en tant que joueur, il y a quand même de temps en temps un consultant, le commentateur. Surtout le commentateur, il vient rôder auprès des présidents, auprès de l'entraîneur, pour avoir des infos sur la compo et au niveau du joueur. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand tu étais à Canal, tu avais cet accès aussi, cet accès aux joueurs. Donc, naturellement, tu te mettais à l'écart ? Tu n'allais pas voir les joueurs ?
Non, naturellement, j'allais voir certains joueurs. Mais,
tu disais bonjour, mais tu ne posais pas la question, tu ne joues pas. Très souvent, on a reçu la...
C'était alors, le truc de base. T'as envie d'avoir la compo. Puis après, quand t'as compris que ou tu l'aurais pas, ou celui qui te la file te fait confiance, parce qu'il sait très bien que tu vas pas la donner. Mais j'ai connu une époque, Edouard, on a connu une époque tous les deux, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc l'angoisse du joueur à qui tu files qui te file ta compo à 19h30 pour 20h30 et qui te dit tu la gardes pour toi, non, il y a plein de journalistes... qui réfléchissent pas trop, qui vont la tweeter direct. Et voilà. Donc, non, il y avait certains joueurs. Tu vas dans des clubs, il y en a un ou deux ou trois, tu dis tiens, je vais discuter avec toi, comment tu vas, quoi de neuf. Et certains avec qui tu. On s'est un peu parlé, je pense. C'est pour ça qu'on se connaît un peu aujourd'hui. On a dû se croiser,
on parlait un peu. On parlait pas foot.
J'imagine, je sais pas de quoi on parlait, mais voilà. C'est pas là que t'as une info.
Non, parce que
tu l'auras peut-être la veille, tu l'auras peut-être si t'as entretenu une relation avec un joueur au téléphone, etc. Mais c'est pas là que t'auras une info. Et en même temps, moi, je suis pas là pour juger les choix de compo, etc. Je suis là pour raconter l'histoire à partir du moment où elle existe. C'est à côté de moi ou avant moi, autour de moi. Je crois qu'on doit juger l'histoire. Moi, je la raconte. C'est pas. J'ai entendu des gamins sur un podcast l'autre jour qui disaient Margoton, c'est l'AFP. Ils le considéraient comme une insulte. Moi, j'ai pris ça comme un putain de compliment. Ouais, je suis l'AFP. Moi, c'est une. Il se passe ça, je raconte ça. Et ça va pas être. Toi, t'es nul, on le voit tous que t'es nul. Je vais le dire une fois qu'il est pas bon aujourd'hui, qu'il est pas dans son match. Mais je vais pas le dire 50 fois. Tout comme je vais pas dire que ce joueur, il est exceptionnel 25 fois. Non, une fois, ça suffit bien. Encore une fois, toi, je l'ai dit plusieurs fois pour toi. Mais voilà, je peux comprendre que ma définition du métier peut être un petit peu rigoriste, un peu de robot, oui, mais elle est où sa sensibilité, ils sont où ses choix, ils sont où ses partis pris. Mon parti pris, c'est justement d'essayer de ne pas en avoir et d'essayer d'être lavé au moment où j'arrive sur le match et de le décrire comme il est en train de se passer sous mes yeux. Qui on est pour dire que lui, il n'est pas bon ou lui, il est bon ? Est-ce que tout le monde sait que lui, ce matin, il s'est levé, il s'est fait mal au pied ou sa femme, il l'a quitté hier et il est à la rue depuis deux semaines parce que dans sa famille, ça ne va pas ou que sa fille... On ne sait pas ça. Personne ne le sait. Personne, ça, c'est pas possible de savoir ça. Donc, à partir du moment où on ne peut savoir que des petites parties qui vont forcément influencer, à mon avis, pas bien ton commentaire, autant ne rien savoir et de tout prévoir. Voilà, les infos, les stats, on en reparlera, hein, ouais. Des chiffres, à quoi ressemble ta saison. Je vais souvent regarder les derniers matchs des joueurs, etc., les derniers matchs des équipes, j'en profite, comment tu as joué tactiquement. Mais après, il y a un truc qui se passe sous nos yeux. Et
c'est ça que tu racontes.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui me plaît.
C'est très intéressant comme vision, surtout à notre époque, où tu as une tendance à être influencé par tout ce qui est sur Twitter. Et puis, dans les médias aussi, encore une fois, sans pointer du doigt personne. Mais tu as une tendance, t'as la tendance du talk autour du foot. C'est-à-dire, le talk, c'est quoi ? Ça veut dire parler, donner son avis. Et tu as l'impression que plus la vie est marquée, plus c'est intéressant. Donc, plus tu vas avoir d'intérêt. Et j'imagine qu'il faut quand même aussi. Il faut une certaine crédibilité pour pouvoir se retirer de ça et dire « Moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que je suis Grégoire Margoton. »
Mais il y a un consultant aussi à côté.
Déjà, et puis je suis né dans une chaîne à Canal+, qui n'avait pas besoin de le faire,
ouais.
Qui était qui accompagnait les champions. Moi, j'ai toujours entendu de la part de Charles Bietri, à qui je pense très fort en ce moment même, parce que ça ne va pas très fort, on respecte les champions. La première chose, c'est que tu respectes le champion. Donc, quand tu respectes un champion, tu prends du recul, tu ne vas pas tout de suite dans le jugement. Tu attends, tu tournes ta langue deux fois avant de sortir quelque chose qui, hop là, épidermiquement, ouais. pourrait sortir sur un comportement. Voilà. Tu prends le temps, le recul avant de juger. Et surtout, tu respectes. Tu respectes ce que ça implique. Tu respectes le travail. Tu respectes l'entraînement. Tu respectes la vie. Et c'est des choses, moi, que j'ai apprises fondamentalement. C'est-à-dire que je ne peux pas, même sans un jour est mauvais, je ne vais pas au fond de moi me dire, mais quelle merde, ouais. ou quelle c'est la honte. Non, je sais ce que ça représente.
Ouais.
Et malheureusement, en France, on n'a pas trop cette culture-là de ce que représente, ce qu'exige le très haut niveau,
ouais.
de ce que ces gamins ont vécu, de l'âge de 12 ans, 11 ans, 10 ans, ils sont en concurrence, mais une concurrence exacerbée dès le départ. Ils quittent leurs parents à 13 ans, à 14 ans, c'est terminé. Ils sont déracinés, et là, il y a un jugement, et la 16, et la moins de 17, et la moins de 18. Enfin, c'est un enfer. Ah, et ceux qui arrivent à s'en sortir sont des phénomènes, tous. Voilà. Et dans les phénomènes, il y a encore d'autres phénomènes. Et moi, c'est au-delà du jeu, du décor. J'adore les stades de foot, j'adore parler de ça, j'adore cette atmosphère-là. Il y a aussi le parcours des uns et des autres qui est passionnant. Et de temps en temps, quand t'arrives, on a tous vécu ça, un sportif exceptionnel, c'est une récompense. Alors, ouais. pas pour moi, mais pour tout le monde.
Non.
C'est une récompense. Ouais. Et d'être là à commenter Mbappé en finale de Coupe du Monde, c'est ouais. Je le prends pas pour moi non plus, mais
non.
Je me dis, oh putain, j'ai vécu ça, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Et tu dis un truc très intéressant, donc je me permets de rebondir dessus. Tu parles de culture, et il y a une question qui revient très souvent, qui est un peu utilisée à tort et à travers, c'est ouais, en France, on n'a pas de culture sport, on n'a pas de culture foot. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois ?
Non.
Okay.
Ça dépend ce que tu mets derrière le mot culture. Il y a de ouais. plus en plus de culture sport et de culture foot, de ouais. connaissances, en tout cas.
Ouais.
La culture, c'est quelque chose d'encore plus large. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de moins de 50 ans qui suivent le sport, qui ont grandi dans du sport ou des sports, qui suivent le football, beaucoup, qui aiment ça, qui connaissent peut-être même des fois et souvent mieux que le commentateur lui-même, qui sont plus au courant des transferts, du prix de machin, des dernières stats, des expected goals de cette équipe depuis trois journées.
Ouais.
C'est clair, on s'adresse à des gens ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
Ouais.
Là où on n'a pas de culture, là où on n'a pas encore la culture, c'est que ce qui n'a pas changé depuis 30 ans, c'est que les élites françaises, les politiques, considèrent toujours le sport comme un doux passe-temps,
ouais,
voilà,
c'est ça.
Qui fait du bien quand ça gagne,
ouais,
qui fait du bien quand ça gagne parce qu'on peut utiliser l'image du sport, et qui quand ça perd ou quand entre deux compétitions retourne à son rang de manque de respect absolu.
Ceux qui sont pas bons à l'école sont bons en sport, mais ils font pas grand chose.
Voilà. Et ça, le respect des élites pour l'importance du sport dès l'école, ça n'a pas beaucoup évolué, et j'espère que ça évoluera un jour. La culture, en revanche, du grand public et les spécialistes sur les sports, elle a explosé en France. Depuis 30 ans, explosé.
Ouais.
Alternative football.
Il y a y a de toute façon un lien intime dans d'autres pays qui ont un respect pour le statut de sportif beaucoup plus important. Il y a un lien intime entre l'éducation et le sport, c'est-à-dire que ça fait partie du processus de construction de l'enfant ou de l'étudiant. Et c'est vrai que nous, on a tendance à séparer les deux. C'est-à-dire que tu as 2 heures de sport dans la semaine, c'est un peu le défouloir. Ouais. Et effectivement, tu as le 0,1% qui viendra sportif professionnel, mais qui pourra aussi faire que ça. Parce que l'autre, et je fais un aparté, ensuite je reviens à un autre sujet, mais l'autre chose qui me frappe, et moi j'ai eu la chance de vivre à l'étranger, on a la chance avec peut-être de bosser partout, c'est que dans l'industrie du sport de manière générale, en France, l'ancien sportif, en général, il est consultant ou coach, mm-hmm. ou dans le staff. Mm-hmm. Alors qu'on va retrouver, notamment dans des boîtes qui font de la tech, tu vois, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, je t'en parle même pas, des anciens sportifs, mais qui ont pris des chemins qui sont beaucoup plus divers que ceux que tu connais en France. Et je pense que c'est lié à ce constat-là, c'est-à-dire qu'on a siloté le sport en disant bah, les sportifs, ils font que du sport, ils sont que dans le sport. Par contre, tout ce qui est sérieux, vous êtes gentils les gars, vous vous approchez pas. Je reviens, à part si tu voulais ajouter quelque chose.
Non, mais et pourtant, certains présidents de la République, et pas les trois derniers, sont authentiquement des fans de sport. Ouais. Authentiquement, je pense. Ouais. Alors, ça les sert, hein, évidemment. En termes d'image régulièrement, mais authentiquement, c'est des connaisseurs et des fans de sport. Mais regarde le budget du ministère des Sports. Regarde, elle est ministre des Sports ou secrétaire d'État aujourd'hui ou déléguée. Enfin, il n'y a même pas un ministère des Sports. Ouais. C'est même plus un ministère. C'est-à-dire que, voilà, à part le cours de musique, et même, je crois que c'est pire que le cours de musique dans l'imagerie générale. Quoi. C'est, bon, l'imaginaire populaire. Bref, c'était. Ouais, la situation du sport est malheureusement pas enviable en ce moment. Mais ça évolue pas.
Alors, la conscience d'Alternative Football, Maxime Marchand me dit en direct, elle est ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Ce qui est, je pense, très opportun du fait d'un événement qui se passe.
Mais pourquoi pas ? Mais elle est à nouveau ministre, rende ministre. Ce qui n'était plus le cas pendant un temps sur les sports.
Absolument. Ouais, ouais. Alors, je reviens à notre sujet de départ, comment on raconte le foot et comment on raconte les matchs surtout. On a parlé un peu de la préparation, tu nous expliquais comment tu travaillais. Il y a une dynamique qui est forcément très intéressante, c'est celle du commentateur et du consultant. On a en général un consultant qui est un ancien sportif, un ancien footballeur dans le cadre du foot. Et
un ancien entraîneur.
Et un commentateur qui est lui journaliste. Est-ce que quand tu travailles en binôme, c'est des choses qui sont très définies et vous passez du temps à respecter le rôle de chacun? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est quelque chose de très naturel? Toi, tu vas prendre ta place de journaliste et tu vas lancer le consultant sur des sujets, tu vas le...
Ça se définit globalement au départ, mais d'accord. Ça s'est défini déjà, je pense, avec Albaladejou et Couder, qui est le premier binôme, si mes souvenirs sont bons, de sport avec journaliste et consultant. Donc on est dans les années 70. Mm-hmm. Ça a commencé là et ça est devenu institutionnalisé. Depuis, on commente à 2, voire à 3, ouais. Parce que dans certaines chaînes, l'homme ou la femme de terrain a un vrai rôle. Donc ça devient, ou des fois à 4, hein, je me souviens, même TF1, il y avait Arsène Wenger.
Quand pensez-vous Arsène, ouais.
Voilà, c'est vrai. Donc là c'est trop. Là, c'est clairement trop.
Ça fait du...
Ouais. Non, c'est pas possible. Non, ça, c'est naturel, le journaliste décrit, le consultant... se projette, décrypte, analyse, met en perspective. Et des fois, et heureusement, est aussi dans l'émotion. Lui aussi peut faire naître l'émotion quand il va y avoir quelque chose de très football, un geste, quelque chose qui va lui, d'abord le consultant, avant le journaliste, des fois le faire réagir. Donc on n'est pas simplement dans une étude cartésienne d'un système de jeu, d'un enchaînement de passes et de mouvements qui ont abouti à ce machin, et je vous explique, non, c'est pas forcément ça. Mais chacun a son rôle. Moi, à Canal, on me disait, bon, toi, t'es journaliste, tu fais ta fiche. La fiche était un grand truc cartonné jaune avec l'équipe à gauche, l'équipe B à droite, avec tous les noms des joueurs, toutes les infos, les stats, les chiffres, etc. Un truc qu'on écrivait, il n'y avait pas d'ordi, et qu'on connaissait plus ou moins par cœur, et qu'on devait pouvoir fermer pendant le match et ne pas s'en servir parce qu'on la connaissait par cœur. Bietri, régulièrement, commentait avec de jeunes journalistes. Et au début du match, prenait la fiche et la balançait à l'autre bout, et ouais, le gamin devait se débrouiller sans fiche. Ça arrivait assez régulièrement. Donc, chacun sa place. On m'a appris que le journaliste qui commentait, à partir du moment où le ballon est dans les 30 derniers mètres, c'est plus pour le consultant. À partir du moment où il peut y avoir quelque chose,
une accélération, une ouverture, une passe, une avant-dernière passe, quelque chose qui va nécessiter un commentaire et l'information tout de suite, ou un but évidemment. Là, c'est que le journaliste qui parle. Le consultant, il va arriver après. But, premier ralenti, le journaliste a normalement à terminer. Et le consultant a tous les ralentis pour eux. Et cette mécanique-là, elle existe toujours, partout. Elle est devenue institutionnalisée. Elle n'a pas bougé. Elle se fait naturellement. Et ouais, ça ne demande pas de travail, ça. Ouais. Avec le temps, tu ne marches pas dessus.
Elle peut pas évoluer.
Mais j'en rêve qu'elle évolue, moi. C'est pour ça que je regarde le e-sport. J'écoute le commentaire du e-sport. J'écoute les gamins qui sont beaucoup plus jeunes. Ce n'est pas la même génération que moi. Et je me perçois, alors peut-être que je n'ai pas écouté les bons, hein, mais ceux qui font des gros rendez-vous de e-sport dans des grandes salles, à Bercy, ils commentent comme nous. Ils commentent comme nous, les vieux. Ils commentent avec un mec qui décrit un autre qui va analyser. Et c'est la même chose. C'est exactement le même procédé. Et moi, je n'y ai pas plus réfléchi que ça, mais je pense qu'on peut faire autre chose, ouais. C'est évident.
C'est qui ? C'est vous qui devez amener l'émotion ou c'est le... Par exemple, si tu vois, t'assistes à un match, une dobasse, comment tu fais pour véhiculer... Tu racontes une histoire, mais comment tu fais pour véhiculer l'émotion, une émotion ?
C'est compliqué. Je t'avoue que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de commenter un match où il se passe quelque chose, où t'as du rythme, où t'as des actions, etc. Une dobasse comme la finale de la Coupe du Monde pendant 70 minutes, c'est très compliqué à commenter. Parce que s'il y a 20 millions de personnes qui t'écoutent, sur les 20 millions de personnes qui t'écoutent, tu vas pas leur dire 25 fois qu'est-ce qu'on est mauvais. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Hein. Autant leur dire, allez, coupez la télé, allez faire autre chose. Non, c'est pas ça. La preuve, c'est qu'en deux minutes, ça peut changer.
Dire, c'est un produit aussi.
On l'a dit. On l'a dit que c'était pas bon, on l'a dit que la France passait à travers sa finale, on l'a dit que l'Argentine était plus forte, etc. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué. Heureusement que ça a bougé, sinon c'était la pire finale de l'histoire. Ouais. Je reparle de ce match, mais c'est un exemple.
T'as eu, et j'ai pour le coup une question, la fameuse double question qui revient de plus en plus régulièrement, parce que M. Cissé est également consultant de son état. Ouais. Est-ce que, et tu verras où je vais en venir, Grégoire, l'alchimie que tu peux avoir avec ton binôme? Je pense, en tout cas de mon point de vue de consommateur, me paraît importante. Est-ce qu'on commente forcément mieux quand on est pote avec le mec avec qui on commente? Et je fais bien sûr référence avec ta relation
commente
avec
pas
ton
mieux,
binôme aujourd'hui.
On commente pas mieux, mais ça s'entend. Ouais. Et quand ça s'entend, c'est sans doute plus agréable pour les gens. Je me mets à leur place. Hein. quand tu sens... de l'animosité, mais que deux personnes qui sont en train de parler ne sont pas les meilleurs amis du monde, ça s'entend aussi. Tu mens pas trop, hein. La télé, au bout d'un moment, même quand tu présentes une émission ou quand tu parles, tu mens pas trop. J'adore, moi, des fois, on se retrouve sur les réseaux sociaux alors qu'on s'est chambré avec le basque. Mm. Oh, dis donc, Margoton, Lizarazu, il ne supporte plus, machin, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Bon, mais oui, c'est mieux d'avoir. Ouais. De bien s'entendre quand même. On n'est pas obligé d'être amis. Je ne suis pas ami avec Vicente, je passe mes vacances avec lui. Mais quand on fait une compétition pendant un mois, c'est clair qu'on ne se quitte pas. On bouffe la midi ensemble, on bouffe le soir ensemble,
on voyage ensemble.
Ouais. On voyage ensemble, on va au stade ensemble, on bosse ensemble. Donc oui, heureusement qu'on s'entend. Mais je n'ai jamais eu de gros soucis, moi, humainement. Ça se passait super bien avec Christophe Dugarry à une époque sur Canal. Et Christophe, je le voyais une demi-heure avant le match. Il disparaissait après, mais je ne le revoyais jamais, c'est tout. Et pourtant, on avait très très bon rapport avec Chris. Vous voyez, pour le match, c'est tout.
Ce qui fait la force, c'est le commentateur, en fin de compte. Il doit s'adapter à son type de
consultant. J'en ai eu quelques-uns, ouais.
Là, tu vois, tu parles de Dugas. Dugas, j'avoue, c'est pas un... Ouais, il arrive 30 minutes avant. Après, pendant une heure et demie, deux heures, tu discutes avec lui, donc tu dois t'adapter. Il est adorable. Hein. Lisa, il y a plus de préparation. Et parfois, il y a des mecs où ils viennent à la fleur au fusil.
T'as tous les profils. Les nouveaux consultants, et je trouve ça plutôt pas mal, ce que j'entends, puis je les ai un peu pratiqués. Les Chérou, les Bodmer, tous ces gamins, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, bossent énormément. Ouais. Ça, c'est la différence, peut-être avec certains du passé, c'est qu'ils en connaissent grave. Ils sont fans de foot et ils adorent leur métier et ils bossent beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve ça pas mal comme nouveau pli de la nouvelle génération, c'est bien. Moi, je suis content de voir des consultants bosser, aimer ce qu'ils font et préparer surtout ce qu'ils font.
Ouais. Ils aiment ce qu'ils font.
Oui,
avec eux, ils regardent tous les matchs, connaissent tous les joueurs. Je pense pas que ce soit leur job de faire ça, mais ils le font parce qu'ils aiment. C'est peut-être un plus.
Parce qu'en gros plus. Et évidemment que si tu connais les joueurs, tu sais ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il est capable de faire, ce que le coach a déjà fait. Enfin, évidemment que tu commentes. Et t'es consultant, tu dois apporter. Et consultant pour des chaînes et un public qui en connaît autant que toi. La plupart du temps, quand tu payes 25 euros par mois pour avoir du foot, tu le regardes depuis des années et tu regardes les transferts, tu es au courant de tout. Tout. Donc, je fais pas un autre métier, bon, c'est la même chose, mais je travaille avec d'autres impératifs que ceux-là.
Alternative football.
Et du coup, j'imagine que t'as une qualité qui est un peu prérequise pour ce métier-là, parce que tu dois travailler avec différents profils. J'imagine d'ailleurs que quand tu fais différents sports et que ça se vérifie encore plus, t'es quand même un peu le leader sur l'histoire qu'il a raconté. Donc faut ça aussi savoir manager des mecs qui sont des champions, qui ont été des champions, donc ont forcément un ego. Et toi, tu viens dans ta position de journaliste, c'est toi qui es un peu le pilote du commentaire. Est-ce que la qualité de leadership chez le commentateur, elle est importante? Et si oui, est-ce que ça se travaille? Est-ce que tu parlais de ta timidité? Ça veut dire que, je sais pas, mais j'imagine que la première fois qu'on te met au poste commentateur avec un champion à ta gauche, il faut avoir pour lui dire, raconte l'histoire, toi tu vas venir t'y accoler, je vais t'aider, mais j'ai le volant.
Mais parce qu'il sait, en général, moi je me souviens d'avoir fait les trucs très jeune avec Luis Fernandez ou les gens comme ça qui étaient très connus. Tu prends de la place, mais des consultants qui faisaient le boulot du journaliste, j'en ai pas connu beaucoup.
D'accord.
Et en général, le journaliste, quand le consultant prend trop de place, s'adapte à l'intelligence de s'adapter. Typiquement, tu bosses avec Omar de la Fonseca, tu t'adaptes. Si tu t'adaptes c'est concours de coq, qui prend le plus de place, qui crie le plus, qui va créer l'expression la plus...
qui va être la plus reprise.
Etc., etc. Et ça ne peut pas marcher. Et celui qui commente avec lui, c'est vachement adapté. Il fait low profile et l'équilibre est bon.
Ouais.
Tu es obligé. Moi, je n'ai pas connu ça. Celui qui commentait avec Jean-Michel Larquet devait s'adapter. Parce que tu réécoutes... Jean-Michel Larquet commentait, surtout à la fin de sa carrière, les années 90-2000, il commente tout. Il dit machin, passe la balle à Bidule. Dès qu'il y a le but, il l'a commenté en disant allez, c'est balala, là. Et puis il continue à commenter. Et là, quand t'es commentateur, tu fais quoi? Tu te tais. Et tu te tais, ou alors tu discutes avec lui après en lui disant c'est plus possible, parce que moi je peux pas commenter comme ça ou travailler comme ça avec toi. Mais tu t'adaptes en permanence. Et c'est ça qui est bien aussi. Moi, j'ai été adaptable parce qu'on m'a adapté à des dizaines de consultants. Quand tu as commenté avec George Eddy, qui prend toute la place, ou avec Jean Galfion, l'athlétisme, qu'il faut aller chercher, etc., qui est plus timide, tu t'adaptes à tout. Et c'est ça aussi, l'exercice est sympa pour ça.
Alors, tu parles l'expression « je suis obligé de t'en parler », même si j'imagine que chaque fois que tu mets un pied dehors, c'est quelque chose que tu entends. Quand tu commentes Argentine-France en 2018, Benjamin Pavard met une reprise de volée extraordinaire, quand tu le formules comme tu l'as formulé au commentaire, est-ce que instantanément tu dis « à ce moment-là, j'ai eu la bonne expression, le bon commentaire »
C'est quoi la formule déjà? La formule, tu peux la rappeler?
Second poteau Pavard.
Non mais, bien sûr que non.
Tu peux le répéter?
Bien sûr que non. T'arrives, tu penses qu'en te touchant le nez, en te regardant avec tes petits yeux...
Non mais Greg, je fais pas attention à ça. Et après, je te raconterai une anecdote.
Moi non plus, je fais pas attention à ça.
Sur YouTube,
tu sais,
il y a le centre.
Tu me racontes pas le but, je l'ai vu. Mais c'est quoi l'expression?
C'est second poteau Pavard.
Ah d'accord,
c'est-à-dire un truc vraiment de grande qualité, tu vois. Un truc vraiment que personne n'aurait pu imaginer.
C'est pas ça qui fonctionne.
Mais c'est possible. Ce qui fonctionne quand même, je me suis aperçu de ça, c'est pas sur le moment. Moi, je sais... évidemment que je prépare rien. Je prépare pas des punchlines. Évidemment que non.
Une de mes questions, c'est est-ce que t'as un carnet comme les rappeurs avec des trucs
non,
tu dis celui-là, faudrait que je le place.
Non, bien sûr que non.
D'accord. T'as pas des mots où tu dois balancer et tu prends un petit pari. Ou alors un nom, si. 100 euros, tu dois mettre un truc.
Si tu m'appelles, toi, et tu me dis, tiens, ce soir, tu vas me placer le mot ornithorynque ou Romario, je te le ferai pour toi. Bah, évidemment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais non,
soyez à l'écoute sur le prochain match.
Tu sais pas ce que tu vas commenter. En revanche, je sais très bien quand, après un match, j'ai été à la hauteur du match ou quand je ne l'ai pas été. Ouais.
Et ce jour-là, à Kazan, pour l'Argentine, on s'est quitté avec... à Bichente, on sort du stade, ouais. On se regarde, déjà on avait kiffé, et on se dit, on a été à la hauteur du match. Pareil pour la finale. Alors que je sais très bien qu'en début de compète, pour la dernière Coupe du Monde, les premiers matchs, j'étais fatigué, lui arrivait, on n'était pas dedans, on n'était pas okay. Bon du tout. Et qu'on est monté en puissance tout au long de la compète et qu'à la fin c'était beaucoup mieux. Et ça, j'ai toujours été lucide là-dessus. Je sais quand je suis une merde et quand ça passe. Mais le second poteau Pavard, c'est juste, il y a un centre, le mec fait une reprise, on a la chance, tous combinent bien au niveau du son en plus, c'est pour ça aussi. Ce compte Bichente, qui au moment où le ballon est à 10 mètres de Pavard, dit allez, et je suis pas en train de parler, donc on l'entend le allez, ouais. On crie ensemble, on crie en plus, je pense que. Tu pourrais l'analyser au niveau de la tessiture, on est à la tierce l'un et l'autre, on ouais. Sent, il y en a un qui est là, l'autre, enfin c'est ouais. Pas possible, comme ça se complète, on crie le même temps, enfin, on a un cul monstrueux tout au long de cette action. Voilà. Et pourtant, et on s'excite comme il faut, on le sort comme il faut, on le retient pas, on se lâche comme il ouais. Faut, je pense. Et pourtant, on était tout en haut de la tribune, il n'y avait pas un mec plus loin que nous. La reprise, elle fait 2 cm dans mon champ de vision. Il est tout petit, Pavard. Il est loin, c'est pas possible. Donc, se rendre compte que le truc est exceptionnel, que t'es dans la lucarne, machin, c'est un peu chaud. On y va, on se lâche. Mais tu te rends pas compte, tu sais pas que ça va être repris, t'en as aucune idée. Tu te poses même pas la question.
Tu l'as dit tout à l'heure.
C'est le moment qui est important. C'est pour ça que les gens s'en souviennent. Nous, on l'accompagne à chaque fois. C'est vraiment la grande question qu'on me pose depuis ce but-là. Pourquoi vous arrivez à faire de temps en temps des commentaires qui restent dans la tête des gens? Ce qui reste dans la tête des gens, c'est le moment. Alors des fois, oui. Il y en a un.
C'est la frappe de
moi. Il y en a un seul dans l'histoire qui, pour moi,
je pense savoir ce que tu veux.
Qui est pas au-dessus, on va comparer, mais qui rend ce moment, il est encore plus fort que le moment. C'est-à-dire qu'il permet tout de suite de relativiser. Enfin bon, c'est le coup de boule de Zidane. Ça, c'est le grand moment.
Ah ouais.
Ça, c'est autre chose.
Ah, mais quand tu dis pas maintenant, pas maintenant, Zinedine. Ça, c'est
autre chose. Ouais. Mais le commentaire, même, on peut mourir tranquille après ouais. Ça. Etc. Tout le reste, c'est il y a des grands moments. Alors, tu peux peut-être le pourrir, tu peux peut-être le pourrir, le ouais. Grand moment, être pas bon, ouais. Te bouffer ouais. La langue, etc. Ça peut arriver, mais quand même, si tu fais bien ton boulot, si t'es dans le truc, etc., si t'as bien dormi la veille et que ton cerveau il fonctionne vite, normalement tu l'accompagnes bien. Et donc Pavard, attends, c'est quand même second poteau Pavard. Okay.
Non, c'est vrai que la formule n'est pas complexe.
Mais non.
T'as pas bafouillé, c'est juste ça. Maman. C'est le moment qui est magnifique. Donc.
Exactement.
Ouais, mais tu vois,
deux choses l'une, même s'il y a le moment, il est magique et que tu l'as bafouillé, on cut ta voix, quoi.
Il y a les gens, il y a souvent.
Ah, mais c'est une responsabilité quand même.
Moi je la vois pas comme ça.
Il y a souvent ce débat de gens qui disent j'en ai marre du commentaire, faites-les taire, ces commentateurs, je le supporte plus. Je rêve de pouvoir suivre mon match. Juste avec l'ambiance.
Aujourd'hui, t'as des chaînes qui proposent ça. T'as des chaînes qui proposent un flux sans commentaire.
Mais tu t'aperçois quand même, et c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'il y a un but important qui fait se lever les gens devant leur télé, type le deuxième but d'Mbappé là, à la reprise. Je pense que pas une personne n'a entendu le commentaire.
Ouais, c'est
puissant. Pendant les 30 secondes qui suivent, tu regardes ton voisin, tu balances ouais. Ta bière, tu sautes, bah oui. Tu cries, tu
moi,
hurles.
Moi, j'ai les potes qui pètent un radiateur d'ailleurs.
Personne, tu pètes ouais. Un radiateur, personne ouais. N'entend le commentaire. Et puis le lendemain, le soir même,
tu
te dis putain, c'était bon. Comment il l'a commenté
mais
ce con?
Tu vas le chercher ça. Mais ça c'est
et là, le commentaire arrive en deuxième rideau. Et là, tu deviens un peu important parce que tu es un élément important du souvenir. La musique est un élément important du souvenir.
Hello les gars, je suis avec Marc au studio pour le montage de l'épisode avec Grégoire Margoton. On a enregistré en gros 1h30 et en fait c'est assez difficile de couper pour garder que le meilleur parce qu'il y a tout est très bien. Donc ce que je vous propose, si ça vous va, c'est de couper l'épisode en deux et de faire une première partie maintenant, une deuxième partie dans 15 jours. Dites-moi si vous êtes ok avec ça.
Très bonne nouvelle tout ça. Donc deux pour le prix d'un. Que du bénef. Donc, moi, je valide, on fonce pour deux épisodes, alors.
Top, on fait comme ça. Merci, les gars. Et on dit aux poditeurs à dans 15 jours, alors, pour la suite de l'épisode avec Grégoire Margoton.